notre première lecture se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Proverbes, chapitre 1, verset 1 à 7. Notre deuxième lecture se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, du verset 26 au verset 29. 1 Corinthiens, chapitre 1, 26 à 29. Écoutons à présent la parole de Dieu. Proverbe 1, 1 à 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour connaître les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de la vie. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Père, ta parole et la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la dernière fois qu'il m'est donné de prêcher au milieu de vous dans votre église, ici à Dieupeul, au Centre Liberté, étant donné que je rentre en France le lundi 5 mai, et que dimanche prochain aura lieu la fête des moissons à l'église du Plateau, un culte en commun. Aussi, j'ai pensé partager avec vous les textes bibliques qui vous ont été lus et qui ont traversé mon esprit ces dernières semaines, pour ne pas dire ces deux derniers mois. Des textes que Dieu m'a mis à cœur vraiment de partager avec vous. Parce que je pense qu'ils expriment bien ce qui se vit ici en Afrique, plus particulièrement au sein de votre Église, l'Église protestante du Sénégal. Ces textes-là sont vraiment très forts, je trouve, très puissants, tellement ils bousculent nos idées, nos coutumes, nos habitudes. Comme du reste, c'est le propre, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à lui sans effet, comme dit le prophète Ésaïe, sans avoir accompli sa volonté. Il faudrait que tous les hommes les entendent, ces textes-là, car je crois vraiment qu'ils constituent le cœur du message chrétien, du message de l'Évangile, et aussi qu'ils ont une portée quasi prophétique, osons le mot, et ce, tant pour l'Afrique que pour l'Occident, autrefois chrétien. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités exprimées ici, mais on peut néanmoins les résumer par trois propositions, trois affirmations. La première de ces affirmations, de ces vérités, c'est que rien n'est plus important pour notre vie ici-bas que la crainte de Dieu. C'est écrit sur le mur de l'école du Centre Liberté. Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Votre version de la Bible le traduit de la science ou encore de la sagesse. La crainte de Dieu, qu'est-ce donc? La crainte de Dieu, c'est le respect adorant de Dieu. Et de ce respect adorant, de cette crainte respectueuse de Dieu, découle notamment le commandement central de la loi de Moïse. Tu honoreras ton père et ta mère. Le respect des anciens, le respect des autorités, le respect aussi des personnes âgées, qui est une réalité ici en Afrique, n'est-ce pas? Le respect des personnes âgées. La Bible dit tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs. Quelque chose de cette crainte respectueuse de Dieu s'exprime dans la formule que l'on a coutume ici, au Sénégal, d'entendre, quasi sur toutes les bouches. Dieu est grand. Les musulmans eux-mêmes disent Allahu Akbar, ce qui veut dire la même chose. Dieu est grand. C'est une manière de mettre Dieu à sa place, c'est-à-dire la première, et de remettre l'homme à sa place. Faire acte d'humilité devant le Créateur plutôt que de vouloir prendre sa place. Reconnaître le lien de dépendance absolue qui existe entre Dieu et ses créatures, plutôt que d'exprimer sa révolte contre lui. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La deuxième affirmation, c'est que l'Évangile s'adresse aux hommes. Deuxième affirmation, deuxième vérité enseignée par ces textes que nous avons lus. L'Évangile s'adresse aux hommes, aux petits, c'est-à-dire à ceux qui reconnaissent leur faiblesse, leur misère devant Dieu, leur péché, et qui s'attendent à lui, vraiment. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux hommes. C'est un autre texte de l'Écriture sainte que nous n'avons pas lu, mais que je vais vous lire maintenant. C'est dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais aux hommes, il accorde sa grâce. De même, un autre texte qui me tient à cœur, que je voudrais partager avec vous, toujours sur cette même proposition, cette même affirmation, l'Évangile s'adresse aux hommes. C'est dans le célèbre cantique de la Vierge Marie. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, versets 46 à 55. Et nous lirons les versets 51 et 53. Il a déployé la force de son bras. Il s'agit de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer à vide les riches. C'est aussi là ce qu'exprime l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens. Ce texte-là vous a été lu tout à l'heure, je vais vous le relire. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. J'aimerais aujourd'hui vous dire que ces textes-là, que je viens de vous lire, évoquent beaucoup de choses pour moi, notamment depuis le début de mon séjour en Afrique. C'est comme si ces textes avaient, en quelque sorte, pris possession de moi, au bon sens du terme. Et ils m'accompagnent tous les jours. Voyez-vous, dans notre monde, il y a deux catégories d'individus. Et cela est vrai aussi pour les nations. Il y a ceux qui se croient forts, les puissants, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont riches. Et puis il y a les faibles, les pauvres, ceux qui n'ont pas le pouvoir, ceux qui n'ont pas la force avec eux. Notre monde fonctionne trop souvent en suivant la loi de la jungle. Vous connaissez cette expression, la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. Les plus robustes, les plus adaptés, les plus malins, les plus riches, écrasent les plus faibles, les inadaptés, ceux qui ont du mal à suivre le mouvement, qui peinent à décoller politiquement, économiquement. L'Évangile, frères et sœurs, renverse complètement, j'allais dire de fond en comble, cette logique inhumaine. Certes, il ne s'agit pas de dire que désormais ce sont les faibles qui vont renverser les forts. Surtout pas. La lutte des classes prônée par l'idéologie marxiste et qui a donné naissance au communisme, qui a causé, dit-on, dans le monde plus de 80 millions de morts, est un concept étranger à l'Écriture sainte. Car dans la perspective biblique, dans la perspective chrétienne, les pauvres ne sont pas moins pécheurs que les riches. Attention, seulement l'accès au salut leur est facilité par leur situation de faiblesse, leur précarité. Les riches, au contraire, les puissants, peuvent être tentés, et ils le sont souvent, de s'illusionner, en imaginant qu'ils n'ont nul besoin d'un sauveur, d'un libérateur, car le monde, pense-t-il, leur appartient. À cela, Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Voilà pourquoi La parole de Dieu proclame, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qui avait dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Nous autres occidentaux, nous oublions souvent cette loi spirituelle, tellement nous sommes imbus de notre supériorité économique. Il nous arrive de regarder de haut ceux qui ne nous semblent pas être en mesure de suivre le rythme, la cadence, et qui restent parfois sur le bord du chemin. Ce n'est assurément pas là la bonne attitude. L'Évangile nous invite à la miséricorde, à la solidarité, à l'amour, ou pour dire les choses aux couleurs de votre pays, à la teranga, l'accueil de l'autre, l'ouverture à l'autre, l'hospitalité telle que cela se vit ici en Afrique, et peut-être plus particulièrement ici au Sénégal. Chers amis, l'occidental que je suis ne peut que s'incliner, se mettre à genoux devant vous ce matin, car il faut bien avouer que nous avons tant à apprendre de vous dans ce domaine. La troisième affirmation, enfin, c'est celle qui découle du texte de l'Évangile selon Luc, que j'ai lu tout à l'heure et que je vous relis, tellement celui-ci me semble porteur d'une joyeuse et inébranlable espérance pour notre humanité, pour notre monde, et plus particulièrement pour tous ceux qui souffrent. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quel programme, chers amis! Dieu se préoccupe des pauvres, de la veuve et de l'orphelin, de ceux qui ont le cœur brisé, des victimes de la guerre, des captifs, ceux qu'on livre en esclavage, qu'on prive de liberté. Dans ce monde torturé, voici que le Seigneur Jésus-Christ proclame « Je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est un message de grâce, de pardon, de réconciliation pour tous ceux qui veulent bien l'entendre. Certes, il ne s'agit pas ici d'opposer les riches et les pauvres, ou encore moins l'Occident, le continent africain, que sais-je encore. Ceux qui se croient forts et ceux qui se savent faibles. Mais simplement, il s'agit de reconnaître que le salut ne peut venir en définitive que de Dieu seul, que l'homme ne saurait être son propre sauveur, car l'homme est un loup pour l'homme, nous le voyons bien. Et que pour que de vrais changements dans notre monde puissent s'opérer, il convient que chacun reconnaisse sa pauvreté spirituelle, sa situation d'homme pécheur, d'homme révolté contre Dieu depuis la chute d'Adam, afin de s'ouvrir à la réalité de la grâce, du salut. Car Dieu résiste aux orgueilleux, c'est une réalité. Dieu résiste aux orgueilleux, voulons-nous bien l'entendre. Dieu résiste à ceux qui s'élèvent, à ceux qui se croient forts. C'est ainsi. Mais il fait grâce aux hommes. Cela aussi est une réalité. Ici en Afrique, j'ai vu beaucoup de misère et de pauvreté, mais aussi beaucoup de joie et de reconnaissance exprimée. Beaucoup de gentillesse aussi. C'est la fameuse teranga sénégalaise. C'est une réalité, ce n'est pas un mythe. J'ai vu, j'ai expérimenté les choses. D'où vient cette force, cette joie? Qu'est-ce qui manque à nos pays occidentaux qui ont tant de difficultés aujourd'hui à se laisser porter par une ferme et joyeuse espérance, et qui expriment souvent beaucoup de tristesse Vous savez, les philosophes en France et dans le monde parlent de désenchantement, le désenchantement du monde, de nos sociétés modernes, un monde privé de musique et de chant, un monde mécanisé, chosifié, où l'on nous traite trop souvent comme des numéros, des robots, et où l'on peine vraiment à trouver un sens à la vie. Il suffit de se promener dans les métros parisiens. J'ai vécu du temps à Paris, j'ai connu cela, plus d'un temps, pour se rendre compte de cette réalité que j'exprime ici. Si peu de regards échangés, de gestes amicaux, et tellement de méfiance exprimée, de suspicion, voire parfois même de peur. Il faut avoir vécu cela pour mesurer combien la mentalité ici en Afrique est différente, et combien cela fait chaud au cœur de constater et de vivre ce regard tendre et souriant porté sur les êtres et les choses. Mais d'où vient donc cette difficulté de l'homme occidental à s'ouvrir ainsi, comme vous le faites si bien, aux autres, à l'amour, à la vie? J'ai envie de dire, et c'est là une conviction profonde, mûrie par des années d'expérience et de réflexion, et je le fais sans jugement, mais bien plutôt en portant un regard d'amour sur mon pays, sur l'Europe, sur l'Occident et sur le monde, que ce qui manque le plus à nos nations occidentales, et qui est encore bien présent ici en Afrique, avec des expressions certes variées, et sans non plus idéaliser, il ne s'agit pas d'être naïf. Eh bien, c'est ce dont nous avons parlé au début de ce message, la crainte de Dieu. Ce qui nous renvoie à notre première affirmation, la crainte de Dieu, le respect adorant de Dieu, l'honneur dû à Dieu, dont nous dépendons absolument. Là où Dieu est absent, chers amis, il ne peut y avoir que tristesse et confusion. Là où Dieu n'est pas reconnu, où la crainte de Dieu n'est pas présente, c'est le spectacle douloureux de la mort, de la désillusion, du non-sens qui s'installe, tenace. Tout commence par là, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, de la connaissance, autant dire de la vie. Le sens de la vie et de la fête, la joie de vivre, la reconnaissance, malgré et par-delà le spectacle douloureux de la mort, malgré la pauvreté, malgré la misère parfois, dépend de ce lien d'amour, de ce lien filial, avec celui dont découle toute vie, notre bon Père céleste. Vous savez, le réformateur français Jean Calvin débute son institution de la religion chrétienne en affirmant que Dieu est la source de toute justice et de tout bien, et que nous ne pouvons vraiment nous connaître nous-mêmes en tant qu'homme, en tant qu'humain, qu'à la lumière de cette connaissance que Dieu nous donne de lui-même dans sa parole. C'est parce que Dieu est amour, frères et sœurs, que nous aspirons ainsi à aimer et à être aimés, et que c'est l'amour qui doit mener le monde, pas la haine. Dieu est amour, et tout amour vient de lui. Jésus-Christ en est la preuve incarnée. Il est venu afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul dit de même, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un cantique que vous chantez souvent dans cette église et que j'aime beaucoup, un cantique avec des mots tout simples de tous les jours et qui exprime remarquablement cette réalité dont parle l'apôtre Paul. Vous l'avez chanté tout à l'heure, nous l'avons chanté. Et je voudrais vous relire ces paroles pour que peut-être vous les entendiez d'un jour nouveau. J'aime mieux avoir Christ que l'homme fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi, vêtu de fin lin, mais le cœur désert, sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Chers amis africains, merci pour ce que vous êtes. Merci au Seigneur pour toute l'expression de joie et de fête qui se lit sur vos visages et se décline dans vos chants, vos prières, vos coutumes aussi, vos traditions d'accueil et d'hospitalité. Soyez fiers de ce que vous êtes et priez pour que nous autres occidentaux puissions aussi, comme tout à nouveau, nous tourner vers celui qui en est l'auteur de cette joie, de cet amour, de cette simplicité sereine et tendre, de ses sourires et de ses mains levées en signe d'accueil, de ses regards échangés qui en disent long, de ses relations franches et aimables, qui font que l'on se sent de suite accueilli et reconnu comme une personne importante qui a du prix, que l'on peut tutoyer et appeler par son prénom, parce que considéré a priori comme un frère. Et par-dessus tout, priez pour que la crainte, le respect adorant de celui dont découle toute vie et tout amour nous anime véritablement à nouveau. Souvenez-vous du discours célèbre du pasteur Martin Luther King. J'ai fait un rêve. Je rêve qu'un jour, tous les hommes se tiennent la main et que cessent les guerres, les discriminations, la tyrannie. Il nous est permis de rêver, frères et sœurs, car en Jésus-Christ, tout devient possible. Et ce que nous vivons aujourd'hui dans cette Église en est la preuve. La fraternité et l'amour doivent triompher, et cela se fera. Que Dieu nous soit en aide. Amen.